Enjoy Orange, émission jeunesse de découverte sur Studio ZEF. Bonjour à tous, bienvenue sur Enjoy Orange, une émission jeunesse qui s'intéresse à différentes thématiques, cinéma, littérature, séries, jeux vidéo, sur Studio ZEF. Aujourd'hui, cette première émission sera consacrée à l'univers du manga. Il sera question donc de la popularité du manga en France. Au programme de cette émission, nous allons raconter l'histoire du manga. Ensuite, le portrait du jour sera celui du manga Orange d'Ichigo Takano, suivi d'une pause musicale. Enfin, nous allons enquêter sur les raisons du succès du manga en France, afin de comprendre comment le manga est devenu populaire dans notre pays en l'espace de quelques décennies. Tout de suite, l'histoire du manga. Le manga est une bande dessinée japonaise. Il se lit de droite à gauche, sens traditionnel de lecture japonais. Ses origines remonteraient au Moyen-Âge. Au départ, le manga est une forme d'expression artistique s'inspirant du dessin, des estampes et de la peinture. Au 19e siècle, Katsushika Hokusai est un des premiers dessinateurs japonais à avoir utilisé le terme manga. En effet, il publie alors Hokusai Manga, une série de volumes reprenant l'ensemble de ses croquis. C'est du début du XXe siècle que l'on peut vraiment dater la création du manga. Les premiers magazines dédiés au manga font leur apparition. En effet, Rakuten Kitazawa, mangaka japonais, crée son premier magazine bimensuel Tokyo Puck, où il publie des caricatures ainsi que des mangas en 6 cases. Après la Seconde Guerre mondiale et jusqu'à nos jours, le manga va connaître de profonds bouleversements, autant au niveau éditorial qu'au niveau commercial. Dans les années 50, Osamu Tezuka révolutionne le genre manga et donna naissance au manga moderne, tel que nous le connaissons aujourd'hui. Tezuka définit alors le manga comme une bande dessinée à part entière. Pour mieux caractériser le manga, il va introduire des effets graphiques comme les traits ou les onomatopées, soulignant les actions de mouvement. Passionné par l'animation, il crée alors sa propre compagnie d'animation, Mushi Production, à qui l'on doit notamment Astro Boy, un dessin animé japonais en 1963. C'est ainsi que se développent les déclinaisons du manga vers l'anime et les jeux vidéo. Dans les années 60, l'économie japonaise est en plein essor, et le marché du manga ne cesse de croître. Les gens achètent de plus en plus de mangas, ce qui va entraîner la multiplication des magazines pour la jeunesse et le changement de rythme de publication. Jusque-là, les magazines étaient publiés tous les mois. Ils passent à une publication hebdomadaire afin de mieux répondre à la demande croissante. Les mangas sont systématiquement pré-publiés dans des magazines avant d'être publiés en version reliée. Ce procédé était présent dès les origines du manga. L'histoire des mangas et de la presse magazine jeunesse japonaise sont intimement liées. Au Japon, les magazines s'adressent à un public très particulier, selon leur âge et leur genre. Le Kodomo pour les enfants, le Shonen pour les jeunes garçons et le Shoujo pour les jeunes filles. Vient ensuite le Seinen, un genre de manga destiné aux jeunes adultes, et son équivalent, le Josei pour les jeunes femmes. Or, c'est dans ces magazines que les premiers mangas paraissent dès les années 20. Les mangaka doivent s'adapter au public du magazine qui les publie. C'est ainsi qu'apparaissent les grands genres du manga. Aujourd'hui encore, on trouve le Kodomo pour les enfants, le Shonen pour les jeunes garçons, etc. Dans les années 70, le processus de publication des mangas va être systématisé. Les premières séries de mangas apparaissent sous format de poche d'environ 200 pages. C'est le plus utilisé de nos jours. Depuis les années 80, le marché du manga tel que nous le connaissons aujourd'hui finit par se mettre en place. Le marché s'exporte à l'étranger grâce aux séries animées, Pokémon, Goldorak par exemple, et aux mangas les plus vendeurs, Dragon Ball, One Piece, Fruit Basket, pour ne citer que. Les mangas sont alors traduits et édités par des éditeurs locaux, Glénat, Delcourt ou encore Akata pour la France. Au Japon, le manga est devenu une véritable industrie de l'édition japonaise. En 2016, il est estimé à 340,7 milliards de yens, soit environ 2,8 milliards d'euros. Le manga se décline sous différentes formes. En animé, en film d'animation, en jeu vidéo, en habillement ou encore en jouet. C'était la chronique du jour sur la présentation du manga. Nous allons maintenant laisser place au portrait du jour, le manga Orange d'Ichigo Takano. Orange est une série de mangas de type shoujo, mêlant romance, science-fiction et poésie créée par Ichigo Takano, une jeune mangaka japonaise en 2012. La série comporte 6 tomes traduits en français. Un 7e tome est en cours d'écriture d'ailleurs. Ce manga raconte l'histoire de Nao, une adolescente de 16 ans de Matsumoto, au Japon, qui reçoit un jour une drôle de lettre. La lettre aurait été écrite par Nao elle-même 10 ans plus tard. Dans la lettre, la Nao du futur explique à la Nao du passé qu'elle est rongée par les remords et demande à la Nao du passé d'empêcher son plus grand regret de se réaliser. Plus tard, Nao se rend compte que ses amis ont tous reçu des lettres d'eux-mêmes du futur, indiquant tous le fameux plus grand regret. Tous ensemble, ils vont alors tout faire pour que ce plus grand regret ne se réalise pas et finiront par y arriver. Au-delà de la dimension romantique et poétique de ce manga, on retrouve l'amitié, thème central du manga. L'amour, l'entraide et l'estime de soi sont des thèmes également abordés dans le manga. Ichigo Takano évoque aussi des sujets douloureux tels que la mort ou le suicide. Ce sont des sujets dans lesquels on peut tous s'identifier, jeunes ou moins jeunes. En 2015, Orange dépasse les 300 000 exemplaires vendus à travers le monde. En France, le manga est édité par les éditions Akata. Dans le cadre de l'enquête sur les raisons du succès du manga en France, nous avons eu l'occasion d'interviewer le responsable éditorial des éditions Akata, que vous entendrez après la pause musicale avec le morceau « Electric Daisy Violin » de l'artiste américaine Lindsay Stirling. De retour sur Studio Zef, nous sommes toujours dans l'émission Enjoy Orange consacrée à l'univers du manga. Nous allons nous intéresser à l'enquête du jour sur les raisons du succès du manga en France. Depuis quelques décennies, le manga s'est imposé à l'échelle mondiale comme un genre de bande dessinée à part entière. La France est devenue même le second pays consommateur de manga derrière le Japon. Mais le succès du manga papier est récent et date des années 90. En revanche, la culture manga était présente dès 1978 à la télévision. Les séries animées de science-fiction telles que Goldorak ou encore Albator ont permis au public français de s'intéresser à l'animation japonaise. Les émissions jeunesse des années 80 et 90, telles que le Club Dorothée, ont diffusé des séries animées telles que Dragon Ball, Olive et Tom ou encore Princesse Sarah. Ces émissions ont donné envie à un public très particulier de lire des mangas papier. Le manga papier deviendra populaire auprès du grand public grâce à la traduction d'Akira de Katsuhiro Otomo aux éditions Glénat en 1990. Vient ensuite la traduction de nombreux mangas à succès comme GTO, Fruit Basket, One Piece ou encore Naruto. C'est ainsi que la culture manga s'est développée dans l'Hexagone. Depuis la fin des années 90, le marché du manga est en plein essor. Le nombre de mangas vendus en France dépasse celui de la bande dessinée européenne. Plus de 13 millions par an, soit 26% du marché. Les principales maisons d'édition sont Glénat, Kana, Delcourt et Akata. Nous avons été interrogés Bruno Pham, coordinateur et responsable éditorial du site des éditions Akata. Bonjour Bruno Pham, merci de nous avoir accordé du temps pour cette interview.
Bonjour, merci à vous.
Pouvez-vous vous présenter ainsi que les éditions Akata ?
Alors, les éditions Akata, on a géré en fait pendant une dizaine d'années la collection manga des éditions Delcourt. Et puis, en début 2014, on a décidé d'un commun accord de se séparer. On s'est relancé en tant qu'éditeur indépendant en janvier 2014. Là, on vient de finir notre quatrième année donc, en tant qu'éditeur indépendant. Ça se passe plutôt bien. On a une éditoriale qui est surtout axée autour, autour de trois gros axes. Le premier axe, c'est le shoujo manga, donc le manga plutôt dit pour les filles. On est assez connu dessus, avec des titres de qualité. Le deuxième axe, ça va être l'axe de notre collection What the Fuck. Donc on est un petit peu sur un laboratoire éditorial, on repousse un peu les limites de ce qui est publiable ou pas. Et puis le troisième, on va dire, c'est des mangas qui sont sociaux et en phase avec les problématiques de société. Et donc c'est en général, et c'est quelque chose qui se retrouve dans de toute façon tous les axes de ce qu'on fait. Voilà, et puis moi du coup, dans l'entreprise, je m'occupe beaucoup de toutes les relations avec le Japon, de la communication.
Comment se fait le choix des mangas à éditer ?
Alors, les choix des mangas qu'on publie, on fait beaucoup de surveillance sur ce qui sort au Japon, on reçoit des magazines, on achète plein de mangas, parce qu'on est des lecteurs, hein, on fait tous un peu nos suggestions de ce qu'on a repéré, de ce qu'on aime. On fait des réunions éditoriales, on se retrouve à trois, puisqu'on est trois dans l'entreprise, on parle, on discute, et puis si on aime, on décide d'aller dessus. Alors après, on se pose forcément la question de savoir s'il y a un public en France. Parce qu'évidemment, si on publie un livre et que on ne vend pas, ça va être problématique. Mais notre première démarche en tant que nous éditeurs, c'est de savoir si on apprécie un livre. Après, la question, c'est plutôt de se poser la question comment on fait pour aller trouver un public qui va s'intéresser à ce genre de livre, plutôt que de chercher d'abord un livre qui se vend pour essayer de le vendre en France. C'est pas vraiment ça notre démarche. C'est d'abord le contenu et savoir si on l'apprécie.
Quels sont les principaux mangas que vous avez publiés en tant qu'éditeur ?
Les principaux en termes de succès ?
Comme vous voulez.
Alors, peut-être les titres qui représentent le mieux notre catalogue aujourd'hui, il y a le manga Orange, qui est donc un shoujo manga, mais qui est lu aussi par un public masculin. C'est l'histoire d'une jeune lycéenne qui reçoit au début de l'histoire une lettre qui vient du futur et qui lui raconte ce qui va se passer dans sa vie dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent, et qu'elle va devoir faire plein d'efforts pour ne pas avoir de regrets dans sa vie d'adulte. Je ne vais pas trop dire ce que c'est, sinon ça va un peu spoiler l'histoire et c'est pas le but. Mais c'est une œuvre qui est très généreuse et qui montre des rôles modèles assez positifs pour les jeunes. C'est ça qu'on nous parle toujours d'un qu'il n'y a pas de futur, etc. Et là, on est quelque chose qui se construit en opposition avec tout ça, avec beaucoup d'espoir et aussi une invitation à se prendre en main pour aller se construire un avenir comme on le rêve un petit peu, ou comme on le veut en tout cas. Donc ça, c'est notre très très gros best-seller, puisque en 5 tomes, on en a passé 150 000 exemplaires. On a aussi fait du coup la version roman, et il y a un tome bonus qui va arriver là en janvier, un tome 6. Donc ça, c'est un de nos gros gros succès. Après, on a aussi Le mari de mon frère, qui est un seinen manga qui aborde la question de l'homosexualité, mais à travers les yeux d'un personnage hétérosexuel, d'un père d'une petite fille, et donc c'est très chaleureux, c'est très généreux. C'était en sélection officielle au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Donc ça, c'est aussi un très bon représentant de notre catalogue. Et puis après, sur la collection What the Fuck, on peut évoquer Ladyboy vs Yakuza, qui est en fait une parodie de Survival, parce qu'il y a eu toute la mode des survival un peu depuis Battle Royale, qui est une œuvre très sociale, très, très, très engagée socialement, qui regardait vraiment beaucoup de choses. Il y a toute cette mode avec des fois de la violence gratuite et beaucoup moins de réflexion derrière. Et là, c'est un auteur qui a poussé le concept du survival à l'extrême en mettant un personnage sur une île avec que des pervers sexuels. Et donc, c'est assez surprenant et ça a été un vrai risque et un pari éditorial de publier ces livres-là. Le public a répondu très présent et ça a été une belle mise en avant de notre collection What the Fuck.
D'accord. En consultant votre site, je me suis rendu compte que les collections de mangas n'étaient pas la même que dans la plupart des éditeurs de mangas.
Oui, oui.
Les collections de mangas sont classées à la fois par les suggestions d'âge et d'autre part par le sexe. Est-ce un choix volontaire de votre part ?
Oui, complètement, parce qu'en fait, le problème des classifications à la japonaise, c'est que peut-être qu'à une époque, elles étaient adaptées pour essayer de montrer la diversité, parce qu'on avait une époque, on avait une image du manga qui était que des séries pour les jeunes, un peu d'action, de la violence, etc., qui avait besoin de montrer une autre diversité. Mais à force d'utiliser tous ces mots à la japonaise en catégorie, sous-catégorie, sous-catégorie, je pense que tout le monde y perd son latin et en plus on est rentré dans des faux clichés, dans des fausses images, on a créé des mots qui n'existent pas au Japon ou qui ne sont pas utilisés de cette manière-là. Et un des exemples typiques, c'est ce qu'on appelle le fujo manga, qui est dit, le manga dit pour les filles. On a l'image en France que c'est que de la romance. De la romance policienne, alors qu'au Japon, c'est un genre qui est très très riche, il y a de la science-fiction, de la fantasy, des récits historiques, et aujourd'hui, dès qu'un éditeur signe un shoujo manga qui n'est pas une romance policienne, c'est très très fréquent qu'il le mette dans une collection autre, une collection seinen, une collection shonen. Ça, c'est problématique parce que si on utilise des mots japonais et qu'on les utilise mal, d'abord, c'est un abus de langage, et puis vis-à-vis d'un milieu... je pense que ça fait pas avancer la création, ça fait pas avancer le fait, le besoin de montrer toute la diversité, et finalement on classe mal les choses et on continue à rester dans certains clichés. On a aussi pas mal de parents ou de gens du corps éducatif qui sont vraiment curieux et qui ont envie d'aller vers tout ça, mais si on continue à véhiculer des clichés autant sur les genres que sur les catégories de manga, et que des fois on est à côté de la plaque, on perd un peu son latin, et on pense que ce qui est pertinent, finalement, pourquoi le manga, quand on parle de cinéma, on parle de genre, on parle de fantasy, historique, romance, on a tout un vocabulaire français qui est adapté pour classer des œuvres par catégorie, et là, d'un coup, on a des mots japonais qui sont mal utilisés, et qui finalement continuent de mettre le manga dans des petites cases. Il y a un petit côté ségrégation quoi, qui ne nous plaît pas trop, alors qu'on pense que c'est une littérature, le manga, qui est très riche et dense avec beaucoup de choses. Et sortir des mots japonais, c'est aussi revendiquer ça.
D'accord. Surtout qu'aussi, il y a des mangas qui peuvent se retrouver dans plusieurs catégories en même temps aussi.
Par exemple
Le manga Orange.
Alors oui, voilà, c'est vrai. Orange, au Japon, à l'origine, il était publié dans un magazine de shoujo, effectivement. Et puis, pour différentes histoires, entre les ayants droit, l'auteur a décidé de changer d'éditeur. Et après, elle a été publiée dans un magazine Seinen, effectivement. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ce genre de choses ? Le mieux, c'est de dire que c'est une histoire de romance avec une touche de science-fiction très poétique. Et je pense que c'est la meilleure définition possible pour ce genre de livre, quoi. Enrichissons le vocabulaire. Enfin, utilisons la richesse du vocabulaire français autant que possible.
D'accord. Selon vous, quelles sont les raisons du succès du manga en France ?
C'est-à-dire que ça fait tellement longtemps maintenant, je pense qu'il y a plusieurs générations qui sont passées, donc c'est un peu compliqué à analyser aussi vite que ça, mais je pense que, évidemment, l'impact de la télé a été fort au début, mais il y a une réalité, c'est que dans la production globale culturelle qu'il y avait quand le manga il est arrivé, il y avait un vrai trou dans toute la production pour les adolescents, hein. C'est-à-dire qu'on avait des choses très jeunesse, hein, très pour les petits-enfants, et des choses pour les adultes. Et toute la partie adolescent, il n'y avait pas grand-chose en offre, en proposition un peu ambitieuse aussi, et qu'ils soient capables de s'adresser à eux avec une vraie intimité, avec des sujets qui les préoccupent. Le manga, il a pris une vraie place là-dessus, aussi sur le public féminin du coup, parce qu'il y a encore quelques années, il n'y avait pas de grand-chose qui s'adressait au public féminin. Le manga, il a rempli un trou, et grâce aujourd'hui à... Je pense qu'il y a un effet de cercle vertueux parce que comme il y a eu un public qui est venu, ça a permis aussi à différents éditeurs de prendre des risques, de montrer encore une autre palette de toute la diversité de ce qui se fait au Japon, et que par effet de cercle vertueux, le succès ne peut que continuer parce que l'offre elle est riche là-bas et que ça permet à tous les éditeurs de proposer des choses différentes et du coup de continuer à montrer toute la force et l'originalité qu'il y a là-bas, et donc de s'ancrer durablement.
Le manga va au-delà de la simple bande dessinée et s'est décliné sous différents formats inspirés du manga. On le retrouve notamment dans les jeux vidéo tels que Final Fantasy, dans les magazines sur la culture japonaise tels qu'Animeland, sur Internet comme sur YouTube ou les blogs, dans les festivals comme la Japan Expo, et enfin les produits dérivés, figurines, peluches par exemple, que l'on retrouve dans des librairies spécialisées. Nous avons été interrogés Augustin, gérant de la boutique Asian Gate à Blois. Bonjour Augustin,
bonjour.
Pouvez-vous vous présenter ainsi que la boutique Asian Gate ?
Alors, je m'appelle Augustin, je suis gérant de la boutique depuis fin 2005, exactement. J'étais à un autre endroit, j'étais en face à Micaline, je ne sais pas si vous voyez à peu près où c'est. J'étais au 80 district du commerce, hein. Je suis resté à peu près 7 ans là-bas, presque 8. Et je suis arrivé dans la nouvelle boutique ici, au 17 rue Haute, en bas des escaliers de Nupapin. Je suis arrivé en 2000, ça devait être février 2012, exactement. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à une boutique ici? Ce que je fais, c'est une boutique spécialisée beaucoup dans le manga, dans tout ce qui est bande dessinée d'origine japonaise, aussi bien coréenne, taïwanaise, etc., chinoise. De toute façon, c'est assez vaste comme bande dessinée. Après, je fais tout ce qui est produits dérivés par rapport au manga et aux jeux vidéo. J'ai un petit marché, un petit secteur sur le jeu vidéo. Et après, j'ai une grosse partie sur tout ce qui est trading card. Je sais pas si vous connaissez un petit peu.
Est-ce que vous pouvez expliquer éventuellement ?
Trading card. Alors, tout ce qui est trading card, je pense que vous connaissez, c'est les cartes Pokémon, Yu-Gi-Oh! Le plus ancien, c'est Magic. Et après, maintenant, vous avez les petits nouveaux comme Final Fantasy. Et bientôt, sur Dragon Ball Super, qui sera au premier trimestre 2018, si je me rappelle bien. C'est des jeux de cartes, hein, tout simplement. Pas jeux comme tarot, mais bon, c'est des jeux qui... On appelle ça des jeux de rôle. Par exemple, à Magic, vous incarnez deux magiciens, vous devez lancer des sorts, et puis si vous tuez l'adversaire, comme d'habitude, vous avez des points de vie, il y a plusieurs manières de tuer, sans rentrer dans le détail.
Est-ce que vous organisez des tournois par rapport à ces différents jeux de cartes?
Oui, vous êtes obligé, parce que sinon ça ne permettrait pas de drainer assez de clientèle. Plus vous allez faire de tournois, que ce soit aussi bien en Yu-Gi-Oh!, Magic, FF, Pokémon, sauf Pokémon c'est un truc à part, plus vous aurez de potentiel ou de consommateurs qui sont prêts à venir acheter, aussi bien pour collectionner que pour jouer.
Bien sûr. Qui sont vos principaux clients ?
Alors, pour le manga, les gens, ils ont toujours, je dirais pas des préjugés, mais un archétype du fait que c'est de la bande dessinée, tout de suite, ils pensent que c'est que les jeunes qui achètent. Et or, c'est pas vrai. Pour vous donner une tranche d'âge, c'est plus des gens qui ont entre 30 à une soixantaine d'années. Mon plus vieux client, il doit avoir 67 ans, pour vous donner un ordre d'idée. C'est des gens actifs qui ont un travail qui permet justement de subvenir à leurs loisirs. Parce que malgré tout, ça a un coût, hein. Le manga ou les jeux de cartes, comme le trading card et puis le jeu vidéo, bien sûr.
Le marché du manga tient sur quelques titres. Comment faites-vous pour vendre les autres titres ?
Alors, pour vendre les autres titres, faut déjà connaître, c'est-à-dire un minimum les avoir lus. Et après, vous êtes obligé de dumper un peu, je veux dire, quand je dis dumper, ce ne serait pas forcément le d'autre. C'est indirectement faire un peu de forcing. Parce que si vous voulez, le problème maintenant, les lecteurs, ils restent toujours sur un tranché qu'ils connaissent. Après, sur les chantiers battus, comme on appelle ça d'un côté, ils ne veulent pas trop. Mais vous êtes obligé de les faire goûter un peu, comme pour le chocolat, le nouveau truc. Si vous ne les faites pas goûter, vous ne les faites pas feuilleter, qu'ils ne testent pas le premier tome, c'est toujours compliqué. Donc il faut forcer un petit peu. Et après, en général, s'ils aiment, ils continuent à faire la collection. Parce qu'en manga, en général, c'est très rare que ce soit des tomes uniques, c'est plusieurs tomes. Ça peut être des collections de 12, 15, 20, 30, et plus d'une centaine de tomes, bien sûr.
Comment se fait le choix des mangas à vendre votre librairie ?
Alors, on travaille en général avec des représentants qui représentent soit plusieurs éditions, maisons d'édition, soit on travaille en direct, soit avec, on appelle ça des fichiers PDF, c'est-à-dire que par mail. En général, c'est plus des représentants. Alors, le représentant va arriver avec son ordinateur portable ou soit sa tablette. Il va voir plusieurs titres. qu'on va les voir. En général, je dois les travailler en amont parce que ça m'évite de pas connaître le produit, etc. Comme ça, ça me permet de voir les quantités. On travaille minimum 2 mois à 3 mois à l'avance. Ça veut dire qu'au pire des cas, ça peut être 6 mois ou 7 mois. Donc, faut pas se tromper.
Donc, du coup, vous travaillez avec les éditeurs notamment?
Oui, en direct. C'est plus facile.
Avec quels éditeurs?
Alors, le plus gros éditeur actuel, c'est... ça serait la partie Hachette qui regroupe plusieurs éditions. Je pense que vous avez peut-être entendu parler Hachette, hein. Hachette Livre, etc. Vous avez le gros groupe, ça va être Delcourt, Delseul, Tonkam. Après, vous avez la partie Glénat, voilà. Et après, vous avez la partie tout ce qui est MDS. MDS, c'est, on appelle ça le distributeur. Alors, qu'est-ce qu'il regroupe? Il regroupe tout ce qui est Cana, tout ce qui est Ankama comme maison d'édition. Et après, vous avez d'autres plus petits comme Union Distribution, mais qui, malgré tout, c'est une grosse maison. Tout, mais il n'y a pas beaucoup de titres que je travaille chez eux. C'est Saka et après il y en a encore d'autres, hein, bien sûr.
Quel type de manga sont les plus demandés par les clients ?
Actuellement, ça sera... Tout dépend, mais là, ça sera plus du seinen. Parce que les gens parlent toujours du shoujo, shonen. Je sais pas si vous avez entendu ces termes déjà. Shoujo, le truc, histoire pour jeunes demoiselles, pour les filles. Shonen, plus pour les garçons. Mais là, c'est plus des 12-15 ans. Et là, seinen, c'est plus des ados et adultes. Voilà, parce que c'est un peu plus violent, soit l'histoire est beaucoup plus construite, ou soit l'histoire est vraiment beaucoup plus... Le scénario est mieux, beaucoup plus difficile à comprendre, donc après il y a plus d'intérêt, on va dire.
À votre avis, quelles sont les raisons du succès du manga ?
Mais je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Déjà, le facteur prix joue beaucoup. Je sais pas si vous connaissez à peu près le prix moyen.
7 euros en moyenne.
Ouais, à peu près 7 euros. 6,99, 6,95. Maintenant, bon, avec le temps, on va tendre vers 8 euros, bien sûr, hein, parce que les augmentations de papier, les augmentations de diverses raisons. Et deuxième facteur, c'est que rythme de parution, qui est quand même assez régulier. En moyenne, c'est entre 2 et 3 mois. Par rapport à une BD classique franco-belge, c'est 6 mois, 1 an, 2 ans et plus, suivant la série. Et par rapport aux comics, c'est beaucoup plus soutenu. Et surtout, quand même, vous avez quand même pas mal de... une quantité suffisante par rapport au prix. Un bon rapport qualité-prix, on va dire. Je pense que c'est ces deux facteurs-là qui jouent vraiment dessus. Et surtout, après, troisième facteur, c'est on peut baser sur tout ce qui s'est passé en années 90. Club Dorothée, Génération, qui était revenu d'actualité, qui revient encore d'actualité. Tout ce qui est rétro, les gens, ils aiment bien en ce moment.
Il y a un autre facteur que je pense aussi, c'est notamment la diversité des mangas aussi.
Aussi, mais comme c'est dans la BD, dans toutes les BD, l'avantage, c'est vraiment que c'est divers. Aussi bien que dans la BD franco-belge, que dans la partie manga ou dans la partie comics, c'est vraiment très vaste. Vous avez vraiment tout genre. C'est comme si vous arrivez dans une librairie, vous avez des romans, vous avez des nouvelles, vous avez du thriller fantastique, vous avez plein de choses qui va faire que vous allez normalement trouver ce qui vous correspond.
Merci beaucoup.
Vous en prie.
C'est ainsi que s'achève cette émission consacrée au manga. Ces différentes rubriques nous ont permis de comprendre ce qu'est le manga. Nous remercions les personnes qui ont participé à cette émission. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis tout au long de cette émission. On se retrouve très bientôt pour une autre émission sur Studio Zef. L'émission que vous venez d'écouter est disponible en podcast sur studiozef.fr. Enjoy Orange, émission jeunesse de découverte sur Studio Zef.